Par le Père Philippe, Saint Joseph, le 5 décembre 84.
Je vous disais qu'il fallait mettre en parallèle Moïse au mont Sinaï, le législateur de l'ancienne alliance recevant les tables de la loi, et Jésus dans ce dernier repas avec ses apôtres instituant le mystère de l'Eucharistie. Il y a un parallélisme que nous devons respecter et qui doit nous aider à mieux saisir ce que représente ce moment si important au point de vue de la nouvelle alliance. Ce dernier repas qui est un repas d'adieu et qui va être le lieu de la réalisation pour le Christ de son testament instituant l'Eucharistie. Alors, nous voyons comment il ne faut surtout pas considérer que Jean a oublié le mystère de l'institution de l'Eucharistie. Et à partir de là, dire que l'ultime vision sur ce repas pascal, c'est le dépassement de l'institution de l'Eucharistie. Ce serait très, très mal interprété, les rapports de Luc et de Jean. Mais il faut voir que Jean met en lumière quelque chose que les synoptiques ne mettent absolument pas en lumière. Le lavement des pieds. Et que si Jean met ce lavement des pieds dans toute cette lumière particulière, je dirais presque le fait qu'il ne dise pas l'institution de l'Eucharistie parce que Luc l'a dit, met un accent très particulier sur ce mystère du lavement des pieds et sur la bouchée trempée dans le calice et donnée à Judas. Je crois qu'il y a les deux aspects qui sont un peu complémentaires et qui s'éclairent et qui sont propres à Jean. Il faut toujours être très attentif, hein, à ce qu'il y a de caractéristique à l'évangile de Jean. Parce que c'est toujours un peu ce qu'il y a d'ultime. Donc au point de vue mystique, c'est toujours dans Jean que nous découvrons l'aspect ultime de l'amour. Alors, je crois que si on fait la comparaison entre Moïse et Jésus, c'est facile de comprendre que la nuée qui enveloppe la montagne et qui fait que tous ceux qui s'approchent de la montagne sont rejetés, ils n'ont pas le droit de s'approcher de la montagne est sainte, elle est réservée à Dieu. Elle est pour Dieu et pour l'ami de Dieu qui est Moïse et qui, dans ce moment particulier, connaît à l'égard de Dieu cette grande intimité. Lorsqu'il s'agit de Jésus, ce côté séparation n'existe plus. Jésus n'est pas séparé de ses apôtres. Il est au contraire dans la plus grande union vis-à-vis d'eux. C'est le repas d'adieu. Et le repas d'adieu exprime bien une très grande intimité, exprime bien une communion parfaite. pas de séparation, mais un geste de miséricorde, un geste réservé aux esclaves, que Jésus, comme maître, réalise, pour bien nous faire comprendre que son autorité sacerdotale, de grand prêtre, de législateur, est une autorité tout entière au service de ses disciples. C'est une autorité de miséricorde et de pardon. Et c'est pour ça qu'elle est tout entière au service de ses disciples. C'est vraiment une autorité de pardon. C'est une autorité de miséricorde, le pardon étant ce qu'il y a de plus divin dans la miséricorde. C'est, je crois, l'analogue à cette nuée qui enveloppait le mont Sinaï, puisque la nuée exprime l'action de l'Esprit Saint. On peut dire que Jésus est possédé par l'Esprit Saint quand Jésus fait ce geste du lavement des pieds. Il le fait comme l'envoyé du Père et sous la mouvance de l'Esprit, sous la mouvance du don de piété, sous la mouvance du don de crainte, sous la mouvance tout ce qui peut représenter dans l'ancienne alliance ce qu'il y a de plus profondément uni à Dieu. C'est le geste de miséricorde par excellence. Et c'est donc bien l'action de l'Esprit Saint qui nous est manifestée par là. L'action du don de piété, l'action de la charité fraternelle. La charité fraternelle demande ce pardon, demande cette correction fraternelle et ce pardon qui se fait à la fois pour tous et en même temps avec cette note particulière pour chacun. Puisque le lavement des pieds à l'égard de Pierre n'est pas le même qu'à l'égard de Jean, n'est pas le même qu'à l'égard de Judas. Jésus, par là, peut nous faire comprendre que la miséricorde, quand elle est toute divine, est toujours personnelle, elle relie toujours celui qui fait la miséricorde mue par l'Esprit Saint et celui qui la reçoit. Il y a une communication qui se fait dans l'Esprit Saint et une communication qui implique qu'on fait une œuvre commune, celui qui se laisse essuyer les pieds, laver les pieds et celui qui les lave. Et quand Pierre veut se retirer de Jésus qui s'apprête à lui laver les pieds, Jésus lui dit « tu n'auras pas de part ». Donc il montre l'importance de ce geste et montre la coopération qui existe dans ce geste. La miséricorde est toujours un geste qui se fait à deux. On ne peut pas faire la miséricorde tout seul. On fait la miséricorde à deux. Il faut une source. Et il faut quelqu'un qui accepte humblement de tout recevoir de cette source. Et c'est Jésus et les apôtres. Et à travers les apôtres, toute l'Église. Et donc chacun d'entre nous. Ce geste de Jésus, c'est un geste à la fois pour Judas. Et je crois que l'intention primordiale du cœur de Jésus, c'est bien de s'approcher une dernière fois de Judas et d'être seul auprès de lui. La miséricorde dans ce qu'elle a d'ultime auprès de Judas, au moment même où Judas, de fait, a l'intention de trahir, tout n'est pas décidé. Le démon n'est pas encore entré en lui. Puisque Jean souligne, le démon est entré en lui quand il a pris la bouchée. Donc le démon n'est pas encore entré en lui. Si le démon n'est pas encore entré en lui, la miséricorde de Dieu peut encore le toucher et reprendre sa décision. Et c'est, je crois, ce qui nous est montré dans ce geste de miséricorde, c'est que Jésus veut aller le plus loin possible à l'égard de la brebis perdue. Et c'est vraiment pour lui ce geste. C'est pour lui montrer l'accueil d'amour que Jésus réalise pour lui. C'est Judas qui devrait demander pardon, puisqu'il a trahi et il a l'intention de trahir. Et c'est Jésus qui fait le geste d'humilité en face de lui. C'est Jésus qui se met comme son serviteur, comme son esclave, pour lui laver les pieds, pour lui montrer combien il n'a qu'un seul désir, c'est d'exercer auprès de lui cette miséricorde du pardon. Bien que ce soit lui-même qui soit l'offensé, que ce soit lui-même qui reçoive les éclaboussures hein, du geste de Judas, et d'une façon magistrale. Et Jésus s'humilie en face de lui. C'est Jésus qui prend l'initiative de s'humilier. Ça, c'est vraiment la miséricorde dans ce qu'elle a de plus grand. On ne se contente pas seulement de pardonner, mais on s'humilie devant celui à qui on demande, à qui on pardonne. Non pas du tout parce qu'on l'a offensé, mais parce que c'est lui qui nous a offensés. Et Jésus pardonne à Judas. Et Jésus fait ce geste aussi pour Pierre. Il fait ce geste aussi pour Pierre, pour que Pierre comprenne que l'autorité divine, à partir du lavement des pieds, s'exerce différemment que selon l'Ancien Testament. L'autorité dans l'Ancien Testament s'exerce avec colère. N'oubliez pas que Moïse, quand il est descendu de la montagne du Sinaï, et quand il a vu que le peuple d'Israël était en train d'oublier son Dieu, et d'oublier l'alliance avec Dieu et qu'il avait reconstruit un veau d'or pour retourner en Égypte, Moïse entre dans une sainte colère et Moïse brise les tables de la loi. C'est une sainte colère. Le peuple d'Israël n'est pas digne de ça. Et donc le don que Dieu a fait pour le peuple d'Israël, Moïse délibérément, sous l'action de l'Esprit Saint, Dieu ne lui a pas reproché du tout ce geste. Sous l'action de l'Esprit-Saint, il entre dans cette colère où il brise les tables de la loi. Jésus, blessé d'une manière encore plus personnelle, répond par un amour personnel. Répond en faisant ce geste de pardon, ce geste de l'esclave. Là, nous sommes vraiment en présence de la réalisation concrète du mystère de la nuée. L'Esprit Saint, dans le cœur de Jésus, réalise ce geste du pardon. Il le réalise d'une manière particulière vis-à-vis de Judas, il fait comprendre à Pierre que l'autorité qu'il vient de ce, que l'autorité sacerdotale de Jésus est une autorité de pardon. Une autorité qui s'exerce dans la pauvreté, au service de tous ceux qui sont tout proches, au service de tous ceux qui nous ont blessés. Donc c'est l'exercice d'une autorité dans l'amour. Et c'est pour ça que c'est à la fois si pauvre et que ça exige un geste si personnel. Jésus fait le geste du lavement des pieds pour Jean. Très différent. Et ça, ce serait très beau de voir toutes les intentions particulières de Jésus pour chacun. Parce que Jésus les reprend dans leur unité et dans leur communauté. On peut dire hein, que successivement, on voit qu'il y a des moments différents de la vocation des apôtres. Eh bien, il y a un moment ultime et dernier de la vocation des apôtres, c'est dans ce lavement des pieds. Et dans ce lavement des pieds, malgré ce geste de miséricorde si extraordinaire, Judas s'écarte. Mais les autres sont unis. Et donc on peut dire que ce lavement des pieds se fait aussi pour Jean, pour une surabondance d'amour. On peut toujours aller plus loin dans la limpidité du cœur et dans la pureté. On peut aller toujours plus loin dans l'exigence même de l'amour. C'est gratuit ce lavement des pieds pour Jean. C'est tout à fait gratuit. Et peut-être que c'est Jean qui l'a reçu avec le plus grand amour et comme la chose la plus nécessaire qui soit. La gratuité dans l'ordre de l'amour, surtout quand elle touche le pardon, devient la chose la plus nécessaire pour pouvoir aller plus loin dans l'amour. Ce qui est sûr, c'est que Jésus, par ce geste, veut atteindre chacun des apôtres avant de communiquer son testament d'amour. Et pour que chacun puisse recevoir ce testament d'amour d'une manière unique, comme ça lui est destiné. Alors je crois que là, nous voyons bien, vous voyez, le passage entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Nous voyons le passage du côté de la Pâque ancienne et du côté de l'Eucharistie. Ça, c'est visible. Et ces deux Pâques sont liées. Exprès, pour que nous comprenions mieux la continuité et la discontinuité. La continuité de la première Pâque, dixième plaie d'Égypte, hein. La Pâque fait partie des plaies d'Égypte. Et cette Pâque ici, qui n'est pas une plaie, qui n'est pas un signe de correction, qui est uniquement un signe de surabondance d'amour, de correction aussi par rapport à Judas. Ce n'est pas le Pharaon. C'est Judas. Il y a une correction par rapport à Judas. Mais par rapport aux autres, c'est un signe de surabondance d'amour. Comme la Pâque première était un signe de punition par rapport au Pharaon et pour tout le peuple d'Israël, un signe de surabondance d'amour, une libération pour permettre au peuple d'Israël de continuer sa vocation propre, sa vocation religieuse, sa vocation propre d'adoration. Et donc c'est très très net ça. Et bien ici, c'est un signe qui est donné de surabondance d'amour. La nouvelle Pâque, c'est une surabondance d'amour en premier lieu. C'est une Pâque d'amour. Et c'est le don du corps du Christ en nourriture. Et donc ça ne peut pas aller plus loin dans le don et dans la simplicité du don et dans la plénitude du don. Alors pour préparer ce testament d'amour, pour préparer ce don, on comprend qu'il y a une miséricorde de surabondance. Et c'est en ce sens-là qu'on pourrait dire hein, que le geste du lavement des pieds préfigure le mystère de la pénitence. Ça, c'est quand même très, très lié au mystère de la pénitence. Parce que le mystère de la pénitence n'est pas donné seulement au Judas. Le mystère de la pénitence est donné à tous ceux qui veulent aller plus loin dans l'amour. Et c'est nettement dans ce sens-là qu'il faut comprendre, je crois, le lavement des pieds. C'est donné en surabondance d'amour pour Jean, et en surabondance d'amour pour Jean pour que Jean comprenne mieux le lien avec Jésus, qui va s'établir par la nouvelle alliance, par l'institution de l'Eucharistie. Donc là, nous voyons bien le parallélisme avec l'Ancien Testament, et nous comprenons que cet amour plus grand de la nouvelle Pâque, qui fait que ce n'est pas sur le dos d'un animal que la Pâque se réalise, mais elle se passe à l'intérieur même du cœur de Jésus, et que c'est le cœur du Christ qui est donné comme nourriture, c'est le corps du Christ qui est donné comme nourriture, et qui nous appelle par le fait même à vivre du même don. Cette nouvelle Pâque qui se réalise dans l'intimité d'un don corporel, d'un don du cœur, cette nouvelle Pâque exige une préparation immédiate. La préparation lointaine, c'est la parole de Dieu, mais la préparation immédiate, c'est le lavement des pieds. Une préparation immédiate par rapport aux exigences de la charité. Aux exigences de la charité à l'égard de Dieu et à l'égard du prochain. Je crois que c'est à l'égard de la charité fraternelle que ce geste est fait. C'est pas premièrement, voyez, parce qu'il manque d'adoration du côté des apôtres. Non. Il manque d'amour, de docilité dans l'ordre de l'amour. Et de charité fraternelle. Si la charité fraternelle avait été plus grande, Judas n'aurait peut-être pas été Judas. Et chaque fois qu'un de nos frères nous quitte, on doit se dire que peut-être on n'a pas eu assez d'amour pour lui. Autrement, il ne nous aurait pas quittés. Je me souviens de la réflexion. Un couvent que je ne nomme pas, c'est pas la peine, auquel un père qui appartenait à ce couvent avait quitté. Et les pères de cette communauté me disaient, si nous l'avions aimé plus, il ne nous aurait pas quittés. Et c'est vrai. Dans le sens profond, il ne s'agit pas de chercher une culpabilité qui ne serait pas juste, mais il s'agit quand même d'une union dans la charité fraternelle qui fait qu'on se porte les uns les autres et qu'on s'aide les uns les autres. Et vous voyez bien, ce geste de Jésus, souder les apôtres entre eux dans la charité fraternelle et qu'ils s'aiment plus, lui pardonne pour qu'il s'aime plus, pour qu'il y ait dans la charité fraternelle un lien encore beaucoup plus profond au moment où Judas est incertain. Et il faut que les apôtres soient encore beaucoup plus liés à Jésus et beaucoup plus liés entre eux. Parce que la trahison de Judas, pour que l'écriture s'accomplisse, c'est toujours dit ça, on n'accuse pas les apôtres qui ont manqué d'amour vis-à-vis d'eux, mais je suis persuadé que les apôtres ont senti ça comme ça. Ça ne peut pas être autrement. Jean a dû se dire, si je l'avais aimé plus, il ne serait pas parti comme ça, il n'aurait pas trahi. Et c'est vrai. Ça, c'est les liens si forts de la charité fraternelle. Qu'as-tu fait de ton frère ? La grande question que Dieu pose à Caïn, qu'as-tu fait de ton frère ? Donc le lavement des pieds, voyez, montre quelque chose de très très fort comme nouvelle alliance qui commence tout de suite par ces liens de charité fraternelle. Alors je comprends que après l'institution de l'Eucharistie, Jésus donne un nouveau commandement qui est s'aimer les uns les autres. Et la préparation, elle est faite par Jésus. Et elle est faite directement par Jésus pour que les liens soient plus forts. Et dans un repas d'adieu, il y a ces liens plus forts qui se créent, qui doivent se créer pour se porter les uns les autres. Dans l'ancienne alliance, encore une fois, vous voyez la colère de Moïse devant ce manque d'amour, ce manque de sens d'adoration du peuple d'Israël. Jésus aurait pu se mettre en colère. Le motif était suffisant. Et Jésus ne s'est pas mis en colère. Il a au contraire fait le geste de l'esclave pour être plus proche de Judas, pour être plus proche de chacun. L'ordon qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut repris ses vêtements et se fut remis à table, il leur dit: comprenez-vous ce que je vous ai fait? Donc Jésus insiste. Vous m'appelez vous maître et seigneur, et vous dites bien. Je le suis, en effet. Ce n'est pas une abdication de l'autorité. Jésus le souligne. C'est un geste d'amour, de surabondance, qui dépasse l'autorité, mais qui ne la supprime pas. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car c'est un exemple que je vous ai donné, pour que comme moi je vous ai fait, vous fassiez vous aussi. En vérité, je vous le dis, l'esclave n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. L'esclave n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Donc une béatitude attachée à ce geste. C'est quand même très rare que Jésus dise ça. Ce qui montre donc l'importance. Ah, vous voyez, si je regarde avec un intérêt philosophique, nous savons très bien que ce qui est au cœur de la dialectique hegélienne, ce qui est au cœur de la dialectique marxiste, qui provient de la dialectique hegélienne, c'est l'opposition entre le maître et l'esclave. Ici, c'est le maître qui fait le geste de l'esclave. Ce n'est pas le hasard. Jésus savait très bien ce qui arriverait. Et sous la conduite de l'Esprit Saint, il nous donne la seule véritable solution. Avant que cette opposition soit proclamée et que cette opposition entre le maître et l'esclave soit l'opposition la plus terrible dans l'humanité d'aujourd'hui. Alors comprenons, dans la dialectique hegélienne, le maître et l'esclave sont mis en opposition l'un de l'autre. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus aucune finalité qui les unit. Aristote avait dit, le maître et l'esclave ont même intérêt dans leur action, dans leur coopération. Ils ont même intérêt, c'est-à-dire que lorsqu'ils cherchent la même fin, le maître est serviteur du serviteur. Et le serviteur est le serviteur du maître. Il se retrouve donc dans cette coopération en vue de réaliser une œuvre commune. Si on veut réaliser une œuvre commune, il faut qu'il y en ait un qui commande et l'autre qui obéisse. Et c'est en ce sens-là qu'il y a une unité qui se fait. Tandis que s'il n'y a plus de finalité commune, on ne regarde plus que le conditionnement de l'un et de l'autre. Or, il est bien évident que le conditionnement du maître et le conditionnement de l'esclave sont totalement différents. Il y a une opposition entre les deux. Et il y a une rivalité entre les deux. Et une rivalité intolérable du côté de l'esclave. En supprimant la finalité, on crée la rivalité. C'est ça qui est si terrible. Parce qu'en supprimant la finalité, on supprime l'amour. Et donc c'est la rivalité qui immédiatement apparaît entre le maître et l'esclave. Et cette rivalité fait que ça doit aller jusqu'au bout d'une espèce de dialectique qui fait que nécessairement l'esclave doit prendre la place du maître. Et ça continue, forcément. Ici, il ne s'agit pas d'un plan politique, mais il s'agit d'une économie divine. Et il s'agit de quelque chose de nouveau dans l'économie divine, et quelque chose de radicalement nouveau, qui nous est exprimé symboliquement par le mystère du lavement des pieds et le mystère de l'institution de l'Eucharistie. C'est toute la politique divine de l'Église. La politique divine de l'Église doit se comprendre ici. Il y a d'autres lieux, c'est bien évident. Quand Jésus dit qu'il est le bon pasteur, quand Jésus dit qu'il est le roi, tout ça fait partie de l'économie divine. Mais ici, il y a quelque chose de particulier. Parce que Jésus, qui est le maître, qui est le Seigneur, Jésus veut prendre la place de l'esclave pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas d'opposition entre le maître et l'esclave si il y a un amour à l'égard d'une œuvre qui doit être l'œuvre commune de l'esclave et du maître. Et Jésus fait cette œuvre comme esclave pour le bien de ses apôtres, pour le bien de son peuple, pour le bien de l'Église. Et il disparaît, il se met en second lieu, il salue chacun de ses apôtres et se fait l'esclave de chacun d'eux, lui qui est le maître et le Seigneur. Il disparaît pour mettre tout en lumière sur celui qui reçoit le bienfait. C'est vraiment ça la salutation la plus grande. Et c'est ça la chose merveilleuse que Jésus ne cesse de dire, que celui qui parmi vous a une plus grande autorité, mais qu'il soit le plus petit, qu'il soit le plus serviteur. C'est le propre de l'exercice de l'autorité en climat d'une communauté chrétienne. C'est le service propre, c'est l'exercice propre, c'est cette manière-là que l'autorité doit s'exercer. Elle doit s'exercer comme un service radical, le service de l'esclave. Et c'est le maître qui le réalise le mieux, le plus possible. Jésus nous en montre l'exemple. Il veut, en se faisant l'esclave, réaliser ce pardon, réaliser cette miséricorde de surabondance. Jésus nous fait donc comprendre comment la dialectique hégélienne, supprimant l'amour, supprimant la finalité, ne voit plus que le conditionnement du maître et de l'esclave, et par le fait même ne voit plus que la rivalité qui se crée entre eux. Et une fois qu'on est engagé de cette manière, on ne voit plus comment on peut s'arrêter. Plus de raison, parce qu'il n'y a plus de terme. On ne regarde plus que le conditionnement et l'efficacité du conditionnement. Tandis que quand il y a une finalité, il y a un terme. Là, c'est très beau qu'en grec, le mot fin, telos, peras, le terme, et la fin et le terme sont employés constamment l'un pour l'autre, parce que la fin donne un moment d'arrêt. Et ici, Jésus veut prendre la place de l'esclave pour nous faire comprendre ce que c'est que le maître. C'est l'esclave qui éclaire ce que c'est que le maître. Parce que c'est l'esclave qui fait le geste le plus humble et qui s'y accompagne, qui est ici réalisé librement et qui est réalisé pleinement et totalement. Et par là, nous comprenons mieux comment l'autorité dans un régime chrétien, dans une communauté chrétienne, l'autorité doit s'exercer comme celle de celui qui est totalement au service des autres, dans l'amour. Je crois que nous pouvons dire cela. Et c'est très éclairant sur ce que nous voyons aujourd'hui, parce que nous comprenons que cette tactique du démon d'opposition entre le maître et l'esclave, qui n'existait pas chez Aristote, donc qui existe après le christianisme, est comme la grimace du démon par rapport à le geste du testament de Jésus. C'est une grimace formidable. Jésus veut l'unité et Jésus réalise l'unité entre le maître et l'esclave. Il la réalise en lui. Il veut la réaliser entre ceux qui lui sont confiés. Et le démon, à la place d'accepter, le démon fait juste l'inverse. Il va se servir du conditionnement très différent du maître et de l'esclave pour les mettre en opposition. Donc c'est vraiment un exemple que je vous ai donné pour que, comme moi, je vous ai fait, vous fassiez vous aussi. En vérité, je vous le dis, l'esclave n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Nous avons l'autre partie, propre à Saint Jean, cette bouchée donnée à la fin du repas. Cette bouchée plongée dans le calice de vin, est donnée en signe d'amitié. Vous voyez, la miséricorde et l'amitié. Hein. Je crois qu'on peut dire, on peut mettre en parallèle les deux, toujours les deux grands aspects du mystère du Christ selon l'évangile de Jean, l'agneau, l'époux. Hein, et on retrouve tout le temps ce rythme des deux, l'agneau, l'époux. Il est l'agneau qui porte l'iniquité du monde, et ça c'est vraiment la miséricorde, et il est l'époux qui aime. Eh bien vous trouvez ici le geste de la miséricorde, qui est le geste de l'agneau par excellence, il se fait le serviteur de tous. L'agneau c'est le serviteur. Et puis le geste de l'époux, c'est le geste de l'ami. Jésus veut aller jusqu'au bout des liens qui le touchent avec Judas. Il le poursuit. Judas a sûrement vécu, autant qu'on peut le savoir, à travers les textes de Saint Luc et de Saint Jean, Judas a sûrement vécu le mystère de l'Eucharistie. Mais comme il ne croit plus depuis le chapitre 6, il ne faut pas l'oublier, depuis le chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean, ça nous est dit. Au milieu de vous, il y a un démon. Vous comprenez que si Judas croyait encore, Jésus n'aurait pas dit ça. Le démon, c'est celui qui ne croit plus. C'est celui qui rejette la vérité. Alors, quand Jésus dit « Au milieu de vous, il y a un démon », ça prouve qu'à partir de ce moment-là, Judas a refusé de croire. Du reste, il suffit de rejeter une partie pour qu'on rejette tout. Quand Jésus annonce prophétiquement le mystère de l'Eucharistie, quand Jésus annonce prophétiquement ce qu'il veut réaliser pour nous, « Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson », cette parole est trop dure. Une quantité le disent. Et Judas le dit au-dedans de lui-même. Judas fait chorus avec tous ceux qui s'en vont. La seule différence, c'est que Judas reste. Et Judas leur dit, attention, il y a une brebis galeuse. Il ne le dit pas comme ça, mais c'est bien ça que ça veut dire. Il y a quelqu'un qui est en train de trahir. Alors ce quelqu'un en train de trahir, c'est Judas, qui devait se tenir loin, au point de vue affectif, des autres apôtres et de Jésus. Et voilà que Pierre, lorsqu'il demande à Jésus qui doit le trahir, et que Jean transmet à Jésus la demande de Pierre, Jésus ne donne pas d'autres signes. Simon-Pierre lui fait donc signe et lui dit, fait signe à Jean, qui est tout proche de Jésus, celui-ci se renversant à même la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce ? Je crois que ce n'est pas non plus... indifférent l'attitude de Jean pendant la scène. Et c'est en demeurant proche du cœur de Jésus, en demeurant proche de sa poitrine, que Judas demande pour nous faire comprendre sans doute qu'on ne peut accepter certaines trahisons que si on est tout proche du cœur de Jésus. Autrement, c'est impossible à accepter. Notre premier geste quand on est en face d'une trahison, c'est de répondre à la trahison, la vengeance. C'est tellement humain, ça. Œil pour œil, dent pour dent. Il faut comprendre ici, Jésus, Jean qui est tellement lié à Jésus, Jean, tout proche du cœur de Jésus, peut recevoir la vérité au niveau de la trahison. Seigneur, qui est-ce ? Jésus donc répond, c'est celui pour qui moi, je tremperai la bouchée et à qui je la donnerai. Trempant alors la bouchée, il la prend et la donne à Judas. Et après la bouchée, alors le Satan entra en lui. Jésus lui dit donc, ce que tu fais, fais-le bien vite. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprirent pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou bien « Donne quelque chose aux pauvres ». Ayant donc pris la bouchée, il sortit aussitôt. C'était la nuit. Alors, je crois que la seule explication qu'on peut donner de cela, vous voyez bien qu'on montre bien cette bouchée donnée à Judas seul. Donc, ce n'est pas la communion. La communion est donnée aux 12 et elle est antécédente. Et comme Judas ne croyait plus dans le mystère de l'Eucharistie, c'est pas par le mystère de l'Eucharistie, qui est un mystère des vivants, que normalement Judas doit être converti. Il n'est plus sensible à cela. Vous savez, ça arrive, ça, quand on voit des personnes qui se sont écartées longuement de ce que représente le mystère de la foi, le mystère de Jésus pour nous, qui se sont éloignés, qui se sont mis loin. Eh bien, c'est toujours le moment, vous voyez, d'un acte humain qui peut les aider. Parce que le surnaturel ne leur dit plus rien. Le surnaturel ne disait plus rien à Judas. Et Jésus a cette extrême bonté de lui faire un geste de surcroît d'amitié. Et Judas accepte ce geste, donc il ment. Il trahit par un baiser. Et il trahit ici, dans un acte qu'il n'avait pas le droit de recevoir, puisque c'était un acte de réponse à une initiative d'amour. Jésus fait cette initiative d'amour et Judas reçoit cette initiative d'amour. Alors qu'il est loin, alors que son cœur est loin, il fait comme si. Et donc il y a un mensonge dans le geste. Et ce mensonge dans le geste nous fait comprendre ce qui nous est dit ici. Et après la bouchée, alors Satan entra en lui. Et alors immédiatement après, Jean souligne, ou plus exactement, Jean rapporte les paroles de Jésus. Lors donc qu'il fut sorti, Jésus dit, maintenant a été glorifié le Fils de Dieu. Et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui. Et c'est bientôt qu'il le glorifiera. C'est le Magnificat de Jésus. Le Magnificat de Jésus, c'est de montrer qu'au moment même où Judas consomme sa trahison, au moment même où son geste d'amour et d'amitié pour Judas, qui est un geste naturel, c'est plus le sacrement. Jésus demeure tout proche de lui en faisant ce geste. Et Jésus l'appelle en faisant ce geste. Il l'appelle en prenant son langage. Au moment où Judas refuse cet acte d'amour et cette initiative d'amour, Jésus nous montre que son âme exulte de joie maintenant a été glorifié le Fils de l'homme. Une des choses les plus étonnantes, ça. Hein? Qu'est-ce que c'est que la gloire? C'est la victoire de l'amour. Je crois qu'on peut le dire. C'est la victoire de l'amour. Alors c'est au moment où l'amour a été blessé par la trahison. C'est au moment où le cœur de Jésus a été blessé par la trahison que le cœur de Jésus nous révèle la manière dont il vit cette trahison. Il vit cette trahison dans un mystère de glorification. C'est-à-dire qu'il vit cette trahison par un amour victorieux de cette trahison. Et la trahison devient un moyen divin pour que le cœur de Jésus soit davantage donné au Père et le glorifie plus. Lui-même est glorifié et le Père est glorifié. Et donc nous comprenons par là comment le cœur du Christ répond à la trahison par un amour plus grand. Maintenant a été glorifié le Fils de l'homme, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui. Et c'est bientôt qu'il le glorifiera. C'est tout par rapport au Père. C'est l'ultime moment, cette glorification. C'est la grande victoire de l'amour. On comprend comment le mystère de l'Eucharistie est source de la plus grande unité et source, occasion, disons, de la plus grande division. Chapitre 6 le montre, et ici, dans ce chapitre 13, on voit la réalisation. Ce qui normalement est le sacrement de l'unité, ce qui normalement constitue l'unité de l'Église, édifie l'unité de l'Église, le démon agissant sur les amis, sur ceux qui ne croient plus, le sacrement de l'Eucharistie devient l'occasion de la plus grande séparation, la trahison. Et pour Jésus, son amour est plus fort que cette trahison, son amour dépasse cette trahison. Et c'est pour cela qu'il connaît à ce moment-là une gloire inconnue jusque-là. Il expérimente une gloire inconnue jusque-là. Petits enfants, pour peu de temps encore, je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, où moi je m'en vais, vous ne pouvez, vous, venir. À vous aussi, je le dis à présent. Donc, Jésus, après avoir regardé le Père, regarde ses disciples. Judas ayant disparu. Petits enfants. Alors, est-ce que c'est parce que Judas est parti que Jésus dit « je dis petits-enfants » ? Ce qui est sûr, c'est que nous sommes ici devant un langage nouveau de Jésus pour ses disciples, d'une extraordinaire tendresse, parce qu'on est tout proche de la séparation. Jésus montre comment l'Eucharistie réalise de nouveaux liens d'amour. Et ces nouveaux liens d'amour sont bien exprimés de cette manière-là. Pour peu encore de temps, je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, où moi je m'en vais, vous, vous ne pouvez pas venir. À vous aussi, je le dis maintenant. Et puis alors, immédiatement après, je vous donne un commandement nouveau. Que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, que vous aussi vous vous aimiez les uns les autres. En effet, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors le grand commandement de l'amour, donné dans toute sa force, qui est donné comme la conclusion du mystère de l'Eucharistie, comme l'exigence propre du mystère de l'Eucharistie. C'est pour ça que le mystère de l'Eucharistie est enveloppé du pardon et de la surabondance de l'amour dans la charité fraternelle. Nous verrons ça la fois prochaine.